Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Auvine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jacques Azubert. Parce que l'économie est une discipline qui divise, nous vous proposons chaque vendredi un débat entre deux experts. 45 minutes pour mettre en lumière les fractures qui traversent la science économique. Aujourd'hui, faut-il réapprendre à aimer les actionnaires ? Le 30 mars dernier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire appelait les entreprises ayant recours au chômage partiel à ne pas verser de dividendes. Or, selon un rapport publié hier par Oxfam, une trentaine de multinationales ont choisi de rétribuer leurs actionnaires malgré de mauvais résultats et malgré les aides publiques dont certaines ont bénéficié. Une décision qui relance le débat sur le rôle joué par les dividendes dans l'économie. Faut-il aujourd'hui repenser le partage de la valeur ajoutée ? Nous allons poser la question à Pascal Quiry, professeur de finance à HEC Paris, et à Patricia Criffaut, économiste, professeur à Polytechnique. À 14h45, racontez-moi l'écho. Le critique Jean-Marc Lalanne nous plongera dans les conflits sociaux survenus à Nantes dans les années 50 grâce au film de Jacques Demy, Une chambre en ville.
Une grande entreprise aujourd'hui qui dit voilà, moi je suis obligé de reporter le paiement de mes charges sociales et de mes charges fiscales parce que j'ai pas de trésorerie. Ben, si vous n'avez pas de trésorerie pour payer vos charges sociales et fiscales, vous n'avez pas de trésorerie non plus pour payer vos actionnaires, donc vous ne versez pas de dividendes. Et toutes les entreprises qui auraient bénéficié de ce report de charges sociales ou fiscales et qui auraient versé des dividendes se verront obligées de rembourser cette avance de trésorerie sur les charges sociales et fiscales avec une pénalité d'intérêt. Tout simplement parce que la trésorerie doit aller en priorité à l'entreprise, aux salariés et à l'investissement.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, en mars dernier. Bonjour Pascal Quiry et Patricia Criffaut.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, que pensez-vous de cette idée de suspendre les dividendes dans cette période de crise, Pascal Quiry ?
Ben c'est du bon sens et j'embaucherai bien le ministre lorsqu'il ne sera plus ministre pour donner des cours à HEC. De deux choses une, soit les entreprises n'avaient pas de problème de trésorerie et elles pouvaient donc légitimement reverser une partie sous forme de dividendes, soit elles avaient des problèmes de trésorerie, demandaient l'aide de l'État, que ce soit sous forme de PGE, de report de paiement d'impôts, de charges sociales, et là on comprend plus. Si j'ai les problèmes de trésorerie, je vais pas verser des dividendes, qui est une dépense facultative qui n'a rien d'obligatoire.
Et dans le cas des entreprises qui n'auraient pas bénéficié d'aide publique ?
Si elles n'ont pas bénéficié d'aide publique, elles font ce qu'elles souhaitent.
Patricia Criffaut.
Moi, je pense qu'il a très bien lancé un signal extrêmement fort, extrêmement important. La crise du Covid, elle a remis au premier plan le débat sur le rôle des salariés dans l'entreprise, de la question du partage du pouvoir dans l'entreprise. Et ce que nous dit le ministre, c'est qu'au plus fort de la crise sanitaire, l'engagement de tous les salariés, notamment les plus modestes, a permis de maintenir des activités essentielles dont les Français avaient besoin. Et ce qu'il nous dit, c'est que effectivement, les actionnaires, il faut qu'ils le prennent en compte et il faut que le régulateur s'empare de cette question et c'est ce qu'il fait. Et c'est un engagement qui mérite une meilleure implication des salariés dans les instances de pouvoir de l'entreprise et donc ce qu'il veut, c'est prendre ça en compte. Et ça, c'est très très fort.
On va revenir sur cette question du partage du pouvoir, du partage de la valeur ajoutée, bien sûr. Mais d'abord, pour bien comprendre, en l'occurrence, Pascal Quiry, qui est-ce qui va être pénalisé par cette suspension des dividendes ? Pour le dire autrement, qui reçoit des dividendes en France ?
Qui reçoit les dividendes en France, ce sont les actionnaires pour les entreprises qui versent des dividendes. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes parce que certaines estiment qu'elles ont des perspectives d'investissement et des besoins de développement qui font qu'elles ne versent pas de dividendes et leurs actionnaires en sont très contents.
Mais quels sont les profils de ces actionnaires ? Je crois qu'il y a eu une étude d'Euronext qui estime que les bénéficiaires des dividendes versés par les grandes entreprises seraient d'abord les gestionnaires d'actifs à hauteur de 45%, puis les fondateurs et leurs familles, 17%, les petits porteurs 9% et les salariés 5%. Alors qu'est-ce que ça nous dit cette division ?
Pas grand-chose, fondamentalement. C'est-à-dire que vous avez une très grande diversité dans les investisseurs, et c'est un peu le résultat de politiques qu'on a fait depuis des décennies, si vous voulez. En France, on n'a jamais fait de fonds de pension, donc vous n'avez pas de gérants d'actifs français qui ont des participations significatives dans les entreprises françaises. On a poussé la participation salariale depuis le général de Gaulle, qui, pour certaines entreprises, fait 1 ou 2% du capital, qui, pour d'autres, comme Eiffage, en fait 22%, par exemple.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que quand une entreprise réalise des bénéfices, trois possibilités s'offrent à elle, le réinvestir, le reverser aux salariés sous forme de primes, par exemple, ou rémunérer les actionnaires. Or, selon la Banque de France, la part des dividendes dans le profit des entreprises françaises a quasiment triplé en 20 ans. Et ça, c'est un phénomène mondial, Patricia Criffaut ?
Oui, mais alors la question, en fait, il ne faut pas forcément se focaliser que sur la question de la dimension financière, en fait, de ce partage de la valeur ajoutée. Le partage de la valeur, c'est aussi un partage en termes de gouvernance.
Mais on va y revenir sur la gouvernance. Je voudrais vraiment qu'on soit d'abord, qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'on peut faire de ces bénéfices des entreprises.
On peut les réinvestir, voilà. Donc il y a une dimension économique, il y a une dimension financière, la dimension des dividendes. Les salariés peuvent aussi être actionnaires de l'entreprise. Donc cette dimension-là, cette question du partage, cette question des inégalités, de l'inégale répartition, elle est cruciale et donc elle doit être effectivement débattue. Mais la question, c'est qui décide de cette répartition-là. Et c'est pour ça que j'insiste sur la question de la décision. À quel niveau est prise la décision et par qui ?
Alors ce qui justifierait ces dividendes importants, c'est le fait que les actionnaires financent les entreprises parce qu'elle Kyrie, les firmes ont effectivement besoin de sources de financement diversifiées.
Elles ont surtout besoin de capitaux propres. D'ailleurs, vous entendez régulièrement, les entreprises françaises n'ont pas assez de capitaux propres. Sans capitaux propres, il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de développement.
Mais ces capitaux propres, elles pourraient les emprunter à la banque.
Non, par définition, des capitaux propres, c'est de l'argent qui est apporté et qui n'a aucune échéance de remboursement. Vous savez, les capitaux propres apportés par les actionnaires de Saint-Gobain à sa fondation en 1665 sont toujours dans le bilan de Saint-Gobain. Et personne ne peut en demander le remboursement.
Alors, il faut que vous nous expliquiez, Pascal Kyrie, ce qui s'est passé. C'est que, effectivement, les sociétés avaient tendance à s'adresser davantage à leurs banques, à leurs actionnaires jusqu'au milieu des années 90. Comment, pourquoi ce changement ?
Il y a deux sources de financement. Vous avez d'un côté la dette et vous avez de l'autre côté les capitaux propres. La dette, ça nécessite de payer des intérêts qui sont une contrainte légale, obligatoire, et qui doivent être remboursés à une certaine échéance, plus ou moins longue en fonction de l'échéance de la dette. N'importe qui s'est endetté pour un crédit à la consommation, un crédit immobilier, le sait, et pour les entreprises, c'est la même chose. Bon. Et de l'autre côté, vous avez des capitaux propres, c'est-à-dire vous avez des capitaux qui sont été apportés par des actionnaires qui n'ont aucun engagement contractuel de l'entreprise d'être remboursés à un moment donné, d'où mon exemple de Saint-Gobain, et qui reçoivent une rémunération que vous appelez sous forme de dividende, si l'entreprise se porte bien. Ou si l'entreprise n'a pas besoin de cet argent pour continuer son développement.
Donc si je vous comprends bien, les dividendes se sont substitués aux intérêts qui étaient remboursés avant à la banque.
Non, je pense que les entreprises ont eu intérêt à augmenter la part des capitaux propres dans la façon dont elles se financent, parce que ça réduit leurs risques. Ça leur permet de donner une plus grande stabilité, une plus grande résistance aux crises. Et les actionnaires sont très contents quand les entreprises réinvestissent les bénéfices, non pas en les versant en dividendes, mais dans des projets nouveaux. On va prendre un exemple outre-Atlantique bien connu de vos auditeurs. Tesla est une société qui n'a jamais versé un dividende, comme Google d'ailleurs, ou comme Criteo en France, et dont les actionnaires sont contents que les fonds aient été systématiquement réinvestis dans des projets qui ont développé l'activité de la société.
Mais c'est intéressant que vous citiez Tesla, parce que je voudrais vous entendre là-dessus, Patricia Criffaut, sur oui ou non, les actionnaires sont-ils les financiers de l'entreprise, peut-être davantage lorsqu'il s'agit de start-up ?
Mais la question, c'est est-ce que ça finance des investissements sur le long terme aussi. En fait, ce débat-là aussi, la question, c'est est-ce qu'on favorise des actionnaires qui vont rester au capital, qui vont rester plus de quelques mois, plus de quelques semaines, et est-ce qu'on favorise la pérennisation de l'actionnariat. En fait, tous les actionnaires ne sont pas identiques. La structure du capital n'est pas identique quand vous avez des actionnaires qui rentrent, qui sortent, et des actionnaires qui restent plus longtemps. Donc il y a certaines formes actionnariales qui sont plus pérennes que d'autres. Et cette question-là aussi, elle doit regarder l'investissement à long terme et la question sur plusieurs dimensions de la structure actionnariale.
Ce qui justifie également les dividendes élevés pour ceux qui les défendent, c'est le risque supporté par les actionnaires. C'est aussi votre point de vue, Pascal Kyrie ?
Un dividende élevé, c'est simplement la conséquence du fait qu'une entreprise ne trouve plus suffisamment de projets d'investissement dans son métier qui vaille la peine d'être réalisé. Si L'Oréal verse 60% de ses profits sous forme de dividendes, ou Hermès 50%, c'est que si cet argent était réinvesti dans l'activité de L'Oréal ou d'Hermès en créant des nouveaux magasins, etc., ça ne marcherait pas. Enfin, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un magasin Hermès dans toutes les villes de France, si vous voulez. Et donc, il est très souhaitable et très bon pour l'économie que l'argent circule et que, par le biais du dividende, les excès de capitaux propres que génère L'Oréal ou que génère Hermès soient reversés aux actionnaires, libres à eux ensuite, et c'est ce qui se passe dans l'immense majorité des cas, d'utiliser cet argent pour financer d'autres entreprises, des entreprises nouvelles. J'en pense à deux par exemple. Munich, qui est une start-up dans les softwares de données pour l'automobile, l'intelligence artificielle, qui s'est introduite en bourse en février, qui a levé 20 millions d'euros. Cet argent n'est pas venu nulle part. Ou à Carbios, qui vient de lever 50 millions sur la bourse et qui met un système pour lutter contre la pollution avec le plastique, parce que des enzymes vont détruire ce plastique de façon écologique.
Donc vous ne parleriez pas de rémunération du risque ?
Non.
Et vous ne parleriez même pas de rémunération tout court ?
Non plus.
Expliquez-nous.
Je parle de réaffectation. Je parle de réaffectation de fonds. On réalloue les fonds. Au 19e siècle, les principales entreprises, c'était les chemins de fer et les diligences. Heureusement qu'ils ont versé des dividendes qui ont permis de financer l'industrie textile, pétrolière, sidérurgique, et puis après l'industrie électrique, puis après l'industrie de consommation et de nos jours d'autres industries. Donc on réalloue d'un secteur de l'économie à l'autre.
Vous aussi, vous refuseriez de parler de rémunération, Patricia Criffaut ?
Oui, et puis moi, je parlerais plutôt aussi d'investissement socialement responsable. Il y a des financements qui ne sont pas équivalents à d'autres. Il y a des secteurs qui sont effectivement qui méritent de financer des entreprises, des types d'investissements qui contribuent plus au développement durable que d'autres.
Et ça, c'est ce que vous appelez de vos vœux, et pas nécessairement ce que vous constatez.
C'est ce qu'on constate. Il y a des investisseurs qui sont beaucoup plus engagés et qui financent des projets qui sont beaucoup plus contributifs à la lutte contre le réchauffement climatique, au développement durable, aux éco-activités que d'autres. Il se trouve que c'est très intéressant ce type d'investissement-là parce que ils ont montré qu'en période de crise, les entreprises qui étaient financées étaient plus résilientes. Ça s'est observé durant la crise de 2008-2009 et également aussi durant la crise sanitaire qu'on a vécue.
Mais des dividendes plus important se justifie aussi selon vous, selon le risque que l'on prend, c'est-à-dire en cas de faillite de l'entreprise, les actionnaires perdent le capital investi. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument en faveur des dividendes élevés ?
Ces actionnaires-là, l'idée que les actionnaires seraient plus devraient être plus rémunérés parce qu'ils prennent plus de risques, c'est l'idée qu'ils sont une partie prenante particulière supérieure dominante par rapport à d'autres. C'est un argument qui ne tient pas. La théorie économique, la théorie des parties prenantes notamment, montre que les salariés aussi investissent à risque dans l'entreprise, notamment parce que ils peuvent perdre leur emploi et leur capital humain. Il y a deux types de capital humain. Les travaux économiques de Gary Becker, prix Nobel d'économie, montrent qu'il y a deux types de capital humain, le capital humain général, le capital humain spécifique. Et le capital humain spécifique, c'est aussi un actif risqué. D'accord ? Quand on change d'emploi, on ne retrouve pas un emploi strictement équivalent et on peut aussi subir des pertes au même titre.
Spécifique à une entreprise, c'est ça que ça signifie ?
Exactement. À une entreprise, à un secteur, à un emploi particulier. Donc cet argument-là peut aussi s'appliquer aux salariés. Donc il faut aussi également être un petit peu nuancé de ce point de vue-là. Je suis désolée, je reviens sur un terrain un petit peu théorique, mais c'est l'objectif de l'émission.
C'est absolument l'objectif, et c'est très clair.
Donc, voilà.
Absolument. Pascal Kiris, sur cette idée qu'il n'y a pas quelqu'un qui prendrait plus de risques que l'autre entre l'actionnaire et le salarié.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une idée fausse qui est très largement répandue, mais qui n'en est pas moins fausse, c'est que le dividende n'est pas la rémunération de l'actionnaire. Le salaire est la rémunération du salarié, voire les primes qu'il peut recevoir, mais le dividende n'est pas la rémunération de l'actionnaire, car n'importe qui détient ou qui a détenu des actions sait que lorsqu'une action qui vaut, mettons, 100, qui verse un dividende de 3, le jour où le dividende est versé, l'action ne vaut plus 100, elle ne vaut plus que 97. Et c'est logique, puisqu'il y a un actif dans l'entreprise, les 3 dont je parle, qui a quitté le périmètre de l'entreprise. Donc c'est normal que la valeur de l'action baisse d'autant. Autrement dit, l'actionnaire, lorsqu'il reçoit le dividende, il reçoit 3 sur son compte en banque et il a en valeur 3 de moins. Plus 3, moins 3, ça fait 0. Donc la bonne analogie du dividende, c'est pas la rémunération, comme le salaire pour le salarié. La bonne analogie du dividende, c'est le retrait à un distributeur automatique de billets. Ou malheureusement, quand je retire 50 euros sur un distributeur de billets, bah sur mon compte, il va y avoir moins 50 et plus 50 dans ma poche en cash, mais ça fera pas plus 50 comme lorsque HEC me verse un salaire de 50, malheureusement.
Il y a un autre avantage des dividendes, selon du point de vue de ceux qui estiment que ces dividendes sont aussi importants qu'ils devraient l'être, tels qu'ils sont versés aujourd'hui. Cet avantage, c'est le fait qu'ils envoient un signal de bonne santé, selon vous, Pascal Quiry ?
Oui, c'est vrai, ça a été démontré, mais c'est pas l'essentiel, mais c'est vrai.
Parce que c'est tout de même un argument sur lequel on peut s'arrêter un instant, Patricia Criffaut, le fait que baisser les dividendes peut entraîner une chute de l'action, est-ce que ça c'est pas un problème, le fait que les dividendes soient devenus un moyen de communiquer sur l'état de santé des entreprises ?
Oui, c'est un signal, c'est un signal informationnel, mais c'est le vrai signal, c'est quand même ce que fait l'entreprise, d'accord. C'est pas c'est son modèle économique, c'est toutes les décisions qui sont prises par les équipes de l'entreprise. Donc toutes ces informations là sont intégrées et donc c'en est la résultante. C'est quand même plus plus large que ça.
Autre argument en faveur des actionnaires, ils seraient de bons gestionnaires car ils ont les mêmes intérêts que l'entreprise, à savoir que celle-ci fasse du profit. Vous partagez ce point de vue, Pascal Quiry ?
Globalement, oui. Globalement, oui. Enfin, il y a toujours un modulo, c'est-à-dire que l'actionnaire peut diversifier son portefeuille. On n'est pas actionnaire rarissimement d'une seule société. Il est actionnaire de plusieurs dizaines ou centaines de sociétés. Tous les auditeurs qui détiennent des parts de SICAV, qu'ils le savent ou non, enfin, SICAV Actions sont détenteurs d'une infime partie d'un très grand nombre de sociétés. Une entreprise, elle, peut difficilement réduire son risque de la même façon qu'un investisseur. Actionnaire.
C'est en tout cas la théorie qui a été développée par Milton Friedman, qui relie le phénomène à la financiarisation de l'économie, Patricia Criffaut.
Alors, je voudrais nuancer quand même un petit peu sur, faut quand même faire un petit peu une typologie de qui sont les actionnaires aujourd'hui, comment sont réalisées les transactions sur les marchés financiers. La grande majorité des transactions boursières sont effectuées quand même par des tiers avec pas forcément des liens directs avec l'entreprise. Donc voilà, c'est beaucoup de transactions, si ce n'est la plupart, sont quand même réalisées par des algorithmes informatiques. Faut faire des transactions à haute fréquence sur le marché américain. Peut-être que le marché européen est un peu plus à l'abri de ça. Sur le marché américain, 99% des ordres, c'est quand même ça. Donc il faut faire attention un petit peu à ça. On n'a pas tout à fait le même système en Europe, je le nuance aussi. Donc voilà, méfions-nous de ça. Alors pour revenir sur votre seconde question sur l'argument de Friedman, 2020, on est en 2020, c'est quand même un anniversaire un peu particulier. C'est le 50e anniversaire de l'article publié dans le New York Times de Milton Friedman qui est très souvent cité et très mal cité sur la responsabilité sociale des entreprises. Son titre, c'était « La seule responsabilité du chef d'entreprise, c'est de faire des profits ». C'était le titre, mais en fait, c'est pas du tout l'argument qui est ensuite développé. Et il est, en général, les gens ne le lisent pas. Ce que développe Friedman, c'est tout autre chose. Il est pas du tout contre la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Friedman, il explique que c'est vrai sous certaines hypothèses, un peu comme Modigliani et Miller, qui avaient affirmé que sous certaines hypothèses, la valeur d'une entreprise est indépendante de la structure de son capital. Donc c'est très intéressant parce que effectivement, ça a fondé un peu la finance moderne de l'entreprise, Modigliani, Miller, Friedman a fondé la théorie de la RSE sur un peu un malentendu, quoi. Mais on aura l'occasion de...
Je vous propose justement d'écouter un extrait de cet article, d'accord, dont vous venez de parler.
Dans une économie de libre entreprise et de propriété privée, le mandataire social est un employé des propriétaires de l'entreprise. Il est directement responsable vis-à-vis de ses employeurs. Cette responsabilité est de mener les affaires en fonction de leurs désirs, qui seront généralement de gagner autant d'argent que possible, tout en respectant les règles de base de la société. Bien entendu, dans certains cas, ces employeurs peuvent avoir un objectif différent. Un groupe de personnes peuvent établir une corporation à des fins caritatives, par exemple un hôpital ou une école. Le manager d'une telle corporation n'aura pas pour objectif un profit financier, mais l'offre de certains services. Dans tous les cas, le mandataire social est le mandataire des personnes qui sont propriétaires de la société, et ils sont responsables avant tout devant eux.
Voilà un extrait de cet article de Milton Friedman, paru le 14 septembre 1970 dans le New York Times et intitulé « La responsabilité sociale des entreprises et d'accroître ses profits ». Que vous inspire le texte que l'on vient d'entendre, Pascal Quéry ?
C'est un texte, comme le soulignait à l'instant, qui est partiel, enfin l'extrait est partiel. Parce qu'ensuite, Milton Friedman dit que le rôle de l'État, c'est de lutter contre les monopoles et les rentes de situation, c'est de permettre l'accès à l'éducation de la totalité de la population qui le souhaite, etc. Donc, trop souvent, c'est travesti, si vous voulez. Mais faut pas non plus oublier, on cite souvent L'Oréal qui a instauré un système de protection sociale pour l'ensemble de ses salariés dans le monde, similaire au niveau français. Mieux vaut que ça soit dans ce sens-là que dans le sens au niveau du Nigeria, si vous voulez. Bon, et donc les salariés de L'Oréal en Indonésie, ils ont la même protection sociale que nous avons, nous, en France. L'Oréal a pu faire ça parce que L'Oréal a assis une position qui date, fondée en 1909, à des marges élevées et très bien gérées. Donc souvent, il faut avoir les moyens de ses ambitions sociales. Une petite entreprise ou une start-up qui lutte pour sa survie ne pourra pas avoir, au moins dans un premier temps, les mêmes objectifs.
Et puisqu'on parle un petit peu de théorie, il y a une autre théorie, cette fois la théorie de l'agence, qui, elle, a remis en cause l'idée que les actionnaires sont de bons gestionnaires et que leurs intérêts sont les mêmes que ceux de l'entreprise. Que nous dit cette théorie de l'agence, Patricia Criffo ?
L'idée, en fait, c'est que... Alors, je vais juste quand même revenir sur Friedman, juste pour bien comprendre l'argument, parce que ça me permettra de répondre à la question sur la théorie de l'agence. En fait, qu'est-ce que dit Friedman ? L'argument de Friedman, il est très simple. Il dit, quel est le problème économique ? Le problème économique, c'est que on a des externalités qu'il faut corriger, d'accord ? Le réchauffement climatique, c'est une externalité. C'est à l'État de les corriger, d'accord ? Dans une optique de premier rang. Et on a des défaillances de marché, donc les entreprises n'ont pas à se substituer à l'État pour le faire parce qu'ils n'en ont pas la légitimité politique, d'accord ? Pourquoi le titre de l'article de Friedman, les chefs d'entreprise ne doivent que maximiser leurs profits et rien d'autre ? Bah parce qu'en fait, les chefs d'entreprise, ils ont ce sont des salariés, d'accord ? Des actionnaires. Ils ont un contrat de travail, en fait, avec les actionnaires. Donc la théorie de l'agence, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, le manager, il est un salarié de l'actionnaire. Donc les intérêts ne sont pas alignés. Il n'y a pas de raison que l'intérêt du manager coïncide avec l'intérêt de l'actionnaire. Ça serait miraculeux si c'était le cas. Toute la théorie de l'agence, ça va être d'aligner les intérêts des deux. Comment faire ? Comment trouver les bonnes incitations ? Comment trouver le contrat optimal entre le manager et l'actionnaire pour que les deux aillent dans le même sens ?
Et alors, quelles sont les pistes ?
Alors, trouver un contrat de travail, trouver les bonnes incitations, des stock options par exemple, trouver les bons systèmes d'incitation et de rémunération entre les deux pour que les intérêts convergent. Milton Friedman dit, voilà, le problème du manager, c'est que s'il fait de la RSE, il va corriger des externalités, mais il n'aura pas la légitimité politique parce qu'il n'aura pas été élu par le peuple comme un gouvernement aura été élu et devra rendre des comptes. Quelle est la légitimité pour un manager de le faire ? C'est en cas de double défaillance, si les gouvernements sont défaillants, donc si on n'arrive pas à corriger correctement les externalités. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des défaillances de marché et des défaillances des gouvernements. Prenez le cas de la France. Dès lors qu'on essaye de mettre en place une taxe carbone, par exemple, ce que tous les économistes appellent de leur vœu, eh bien, on n'y arrive pas. Le mouvement des Gilets jaunes, le départ, c'est ça, c'est non à la taxe carbone. Donc, on a bien une légitimité économique pour les entreprise à corriger ses externalités. Mais il faut quand même les contrôler quand elles le font.
Pascal Quéry.
Oui, c'est tout à fait juste. Et un certain nombre d'investisseurs, et de plus en plus, ont une préoccupation environnementale et financière, ou financière et environnementale. Et on peut très bien imaginer, on commence à le voir, mais on le voit sur microscopiquement, des entreprises qui, parce qu'elles s'engagent dans une dimension sociale et environnementale, en plus de leur objectif habituel, peuvent trouver des sources de financement qui vont leur coûter un petit peu moins cher.
Et ça, c'est extrêmement vertueux. Beaucoup d'entreprises en parlent de la responsabilité sociale et environnementale, mais combien le font ? C'est quand même beaucoup des discours, Pascal Quéry. On a peu d'organismes de régulation qui permettraient de savoir ce qui est véritablement mis en place.
Non, on n'a pas nécessairement besoin de faire de la régulation pour tout, si vous voulez.
Alors, on a besoin de savoir si ça n'est pas que de belles paroles.
Oui, mais je pense que quand une entreprise prend des engagements publics, par derrière, les actionnaires sont parfaitement capables d'aller vérifier la réalité de ces engagements publics en regardant les documents qu'ils publient publie une fois par an l'entreprise lorsqu'elle est cotée sous la supervision de l'AMF, dans le document universel d'enregistrement dans lequel vous avez des dizaines de pages maintenant sur les engagements sociaux et environnementaux.
Entre mais les actionnaires n'ont pas forcément intérêt à un respect des contraintes sociales et environnementales.
De plus en plus, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une façon d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et qu'une entreprise qui ne s'occupe pas de ces sujets-là risque de se faire blacklister par les jeunes qui cherchent un emploi, les jeunes talents, risque d'avoir un coût du financement qui va s'élever, et puis risque de se faire blacklister par la société au sens large.
Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on constate, Patrick Griffo? Est-ce qu'il n'y a pas davantage des investissements de court terme qui se font au détriment des firmes, souvent, et des salariés?
Alors, votre question, elle est éminemment pertinente. Pourquoi les actionnaires ont intérêt à le faire? D'abord parce que dans leur portefeuille, ils peuvent avoir à la fois des entreprises qui sont extrêmement vertueuses et des entreprises qui ne le sont pas, d'accord? Donc, ils vont être eux-mêmes victimes des entreprises polluantes, par exemple. Donc, ils ont intérêt à ce qu'elles soient corrigées, ces externalités. Ils n'ont pas intérêt au greenwashing, les actionnaires non plus. Ils peuvent être ce qu'on appelle des universal owners. Un investisseur institutionnel, par exemple, dans son portefeuille, il détient potentiellement, au principe de diversification, tout le monde, d'accord? Donc, il faut qu'il intègre ça aussi. Ensuite, donc, il faut aussi réguler ça. Il faut éviter le greenwashing. Quels sont les ordres de grandeur? Le secteur de la gestion d'actifs en France a très fortement augmenté ses pratiques d'investissement socialement responsable. Les entreprises, elles ont bien compris leur intérêt. Les consommateurs, quand on les interroge, ils sont à peu près 1 sur 2 déclarent qu'ils sont prêts à faire ces achats socialement responsables. Aujourd'hui, on est passé de 1% la part des fonds ISR, ok, passé de 1% en 2007 à peu près à 18% en 2014, et aujourd'hui ça sera à peu près 30% des fonds sous gestion en 2020 qui seraient socialement responsables. Donc c'est un enjeu de régulation majeur, et je le dis d'autant plus que je suis vice-présidente de la commission climat et finances durables de la CPR. Donc c'est très très important aussi de contrôler que ce que déclarent les entreprises, de ce que déclarent les gestionnaires d'actifs ne soient pas que des bonnes paroles et des vœux pieux.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Nous sommes toujours en compagnie des économistes Patricia Criffo et Pascal Quiry, et nous parlons des actionnaires et de leur rôle dans l'économie. Alors en mai 2018, une étude assez controversée d'Oxfam estimait qu'entre 2009 et 2016, les entreprises françaises avaient distribué 67% de leurs bénéfices aux actionnaires, 27% étaient allés à l'investissement et 5% aux primes pour les salariés. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui la nécessité d'un rééquilibrage entre la rémunération du travail et celle du capital, Patricia Criffo?
Alors, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que on parle ici de primes sous forme de d'actionnariat salarié, et est-ce qu'on parle des salaires stricto sensu. Ça c'est
alors il faut peut-être expliquer en quoi consiste l'actionnariat salarié.
Voilà, donc c'est pas simplement les salaires, donc il faut décomposer en fait cette question des inégalités de manière plus détaillée. Est-ce que c'est une répartition globale, tout salaire confondu, ou est-ce que c'est dans la partie des primes, parce que l'actionnariat salarié, c'est effectivement une petite part, voilà. Donc j'ai pas regardé, je peux pas vous répondre sur ce chiffre-là en particulier. Pour le coup, je me suis pas penchée sur cette fraction-là en particulier.
Alors, on va revenir l'actionnariat salarié, mais Pascal Quiry, les entreprises redistribuent à l'heure actuelle tout de même sous la forme de participation, de la participation et de l'intéressement. Il faut peut-être expliquer cela.
Oui, ce sont lorsque les entreprises ont signé des accords avec leurs organisations représentatives du personnel, une partie des profits selon l'accord qui a été négocié, ou selon, parce qu'il y a deux, comme vous l'évoquiez, deux dispositifs, ou en fonction de la valeur ajoutée et des résultats de l'entreprise, qui sont reversés aux salariés, avec une incitation d'ailleurs pour les salariés à réinvestir cet argent dans l'entreprise ou sous forme de support diversifié d'investissement, en bloquant les fonds pendant 5 ans.
La participation, c'est obligatoire à partir d'une certaine taille d'entreprise, alors que l'intéressement, ça dépend des bénéfices que fait l'entreprise, c'est ça ?
On peut dire ça pour simplifier, oui.
Oui. Alors, Patricia Criffo, pour mieux partager ces bénéfices, est-ce qu'il faudrait donc mieux partager le pouvoir au sein des entreprises ? Et est-ce que cela, ça passe justement par cette montée en puissance de l'actionnariat salarié qui permet à la fois d'être davantage intéressé aux bénéfices et à la fois d'avoir davantage de pouvoir au sein des conseil d'administration?
Alors, c'est une des formes, effectivement, de participation des salariés, mais c'est pas du tout la seule. En fait, il y a quatre grandes formes de participation des salariés et de partage du pouvoir dans l'entreprise. Quatre grandes formes. C'est l'implication des salariés dans les décisions opérationnelles via l'organisation du travail, les nouvelles formes d'organisation du travail, la représentation qu'on appelle institutionnalisée des salariés dans les comités sociaux et économiques et les négociations collectives, la participation financière, celle dont vous parlez dont l'actionnariat salarié et l'intéressement, et enfin la représentation des salariés dans les conseils d'administration, ce qu'on appelle la codétermination. Donc ces quatre grandes formes sont très importantes, doivent être pensées ensemble. L'actionnariat salarié et l'intéressement, c'est une des formes parmi d'autres, mais c'est loin d'être la seule et c'est très important. Et de mon point de vue, seule la dernière forme, c'est-à-dire la représentation dans les conseils d'administration, la représentation des salariés dans les conseils d'administration de surveillance, c'est la seule pour nous qui est considérée comme une implication vraiment dans les décisions stratégiques et de gouvernance. C'est celle dont je parlais tout à l'heure quand je vous disais qui prend les décisions sur ce partage des dividendes,
On va y venir, mais d'abord sur l'actionnariat salarié. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Pascal Quiry, de permettre aux salariés de participer davantage dans les décisions et de peser sur des questions comme le montant des dividendes ou les rémunérations des dirigeants?
Les rémunérations des dirigeants, le montant des dividendes, ce sont des décisions qui sont prises en conseil d'administration sous forme de proposition qui est ensuite votée ou pas par l'Assemblée générale des actionnaires. J'ai jamais vu l'Assemblée générale d'actionnaires s'opposer à ce qu'on donne plus d'actions de la société aux salariés, c'est-à-dire qu'on augmente la part des salariés dans le capital de l'entreprise. Par contre, j'ai vu des assemblées générales d'actionnaires s'opposer à des rémunérations de dirigeants qu'ils trouvaient excessives. Il y a de nombreux exemples qui sont connus. Plus l'économie va vers une activité de service et plus elle s'éloigne d'activités traditionnelles, plus la part des salariés va devenir importante. Parce que ce qui fait la richesse d'une firme d'avocats, par exemple, ou ce qui fait la richesse de Radio France, ce sont ses salariés, si vous voulez.
D'où l'idée de redistribuer davantage à la fois le pouvoir et les bénéfices. Mais c'est pas tout à fait ce qui se passe pour le moment, Pascal Quiry.
Non, mais les bénéfices, c'est autre chose. Je rappelle à vos éditeurs que le bénéfice est calculé après la rémunération des salariés. Donc, lorsque une entreprise verse un bénéfice sous forme de dividende, déjà les salariés ont obtenu leur salaire, voire leur prime, lorsqu'il y a des primes qui sont prévues, si vous voulez. Donc après, c'est un troisième niveau de redistribution au profit des salariés, qui se justifie pas de façon si évidente que ça. Je voudrais quand même vous rappeler pragmatiquement que quand vous regardez les firmes américaines que tout le monde admire, Apple ou Tesla, vous savez combien il y a de salariés au conseil d'administration d'Apple ou de Tesla? Zéro.
Ah bon, on les admire, mais on critique aussi beaucoup ces entreprises, Pascal Quiry.
Et en Allemagne, quand vous regardez les entreprises allemandes, il y a moitié des administrateurs qui sont des salariés. D'accord? Ça n'empêche pas d'être Deutsche Bank, d'être à la cave, et d'un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises allemandes, de pas être particulièrement bien performantes, si vous voulez.
On valorise rarement le modèle social tout de même des géants du numérique, Pascal Quiry, mais quand on regarde cette étude, donc, qui a été assez controversée à cause de sa méthode, cette étude d'Oxfam de mai 2018, on a le sentiment d'un déséquilibre très important entre la part des bénéfices qui est redistribuée justement aux actionnaires, 67%, et celle qui va aux primes pour les salariés, 5%.
Cette étude est une imposture intellectuelle.
Alors expliquez-nous pourquoi.
Parce que c'est complètement faux. C'est la manipulation d'informations. C'est indigne d'un travail de recherche. Et Oxfam est en train de détruire sa réputation intellectuelle en produisant des travaux pareils.
Mais alors expliquez-nous, quelle méthode pose problème?
Quand vous commencez, comparons des choses comparables, si vous voulez. C'est pas difficile de faire afficher des gros pourcentages d'augmentation quand on choisit l'année de départ. Quand on prend 2009... juste après la crise de 2008-2009, c'est pas indifférent. Les résultats eût été totalement différents s'il avait été pris 2005-2006. Je comprends pas encore comment cette étude peut encore être citée. Je regrette d'ailleurs que Oxfam n'ait pas publié cette année une nouvelle étude, parce qu'ils étaient venus me voir en début d'année et puis finalement l'étude n'est pas sortie, pour que je les assiste sur le conseil méthodologique pour éviter les erreurs qu'ils avaient faites précédemment.
Mais en tout cas, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a peut-être une nécessité, alors vous parlez de la codétermination, cette nécessité de mieux partager le pouvoir au sein des entreprises. La codétermination, c'est cela, c'est équilibrer le nombre de salariés et d'actionnaires au sein des conseils d'administration. La loi Pacte a permis une timide avancée, mais selon vous, il faut aller plus loin aujourd'hui, Patricia Criffaut ?
Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que dans les pays dits de codétermination, en fait, la France, elle occupe une place singulière. Souvent, on dit que la France, elle est un peu en avance par rapport à ses homologues européens. En la matière, c'est le cas. Il y a à peu près une quinzaine, 13 exactement, de pays en Europe qui ont mis ça en place. Hein, donc, la représentation des salariés au conseil d'administration. La France, c'est un peu le dernier arrivé. Donc, on n'est pas du tout en avance, loin de là. Et puis, donc, c'est la dernière arrivée dans le groupe et c'est celle qui représente la forme la plus atténuée, d'accord. Donc, l'histoire de la codétermination en France, elle était pourtant ancienne. Il faut attendre 2013 avec la loi Hérault qui introduit ça, qui rend la présence obligatoire de salariés dans les sociétés cotées privées après à partir d'un certain seuil. Et puis, c'est renforcé en 2015 avec la loi Rebsamen. Aujourd'hui, avec la loi Pacte, on demande deux représentants des salariés pour des conseils à partir de 8. Donc on est le pays où c'est le plus faible parmi les autres pays européens. Est-ce qu'il faut le renforcer? Ça vient d'être fait, donc on va pas renforcer les exigences réglementaires. Attendons déjà de voir si c'est déjà appliqué.
Très peu renforcé en l'occurrence.
Voilà, ça a été très peu sur le débat. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Regardons ce qui se passe ailleurs pour déjà en tirer un certain nombre d'enseignements. Faisons des études scientifiques sérieuses. Pour l'instant, la plupart des études scientifiques sur le sujet sont sur données allemandes. Elles montrent que sur ces données-là, on arrive à des décisions communes sur les qualifications, les emplois, les lignes de produits. Ça montre que les CP, donc en Allemagne notamment, on arrive à de la création de valeur et de la performance. Donc ça a l'air de plutôt bien marcher. Et ça a l'air d'avoir donc des effets plutôt positifs. Mais on manque un petit peu
de recul encore.
Et de recul. Ceci étant dit, moi je tiens quand même à souligner qu'on a aux États-Unis, donc ça traverse l'Atlantique, une petite révolution, parce que 2018, ça a été l'année des débats en Europe et en France, donc en Europe sur la finance durable, en France c'est la loi Pacte, mais aux États-Unis il y a quand même une révolution avec les débats sur le capitalisme progressif, 3 projets de loi déposés au Sénat par une quinzaine de sénateurs, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, remis au goût du jour aujourd'hui avec la campagne électorale aux États-Unis. Je suis désolée, je monopolise un petit peu la parole, mais on n'a pas vu ça quand même depuis un certain nombre d'années aux États-Unis. Le Accountable Capitalism Act proposé par Elizabeth Warren qui exige 40% du conseil d'administration de toute société avec plus $1 milliard de recettes fiscales avec des représentants des travailleurs, d'accord. Le Reward Work Act proposé en mars 2018 par Sanders et Baldwin qui exige pareil que chaque société cotée permette à ses salariés d'élire un tiers du conseil d'administration par des salariés, d'accord.
Mais ce qui est encore plus étonnant peut-être, Patricia Criffo, c'est que on s'attend peut-être davantage à ce qu'Elizabeth Warren ou Bernie Sanders proposent ce type de projet de loi. Ce à quoi on s'attend moins, c'est que l'équivalent du MEDEF américain estime qu'il faut redonner de l'importance aux salariés et être moins dans une démarche de recherche de profit. Ça, c'était une déclaration un peu fracassante d'il y a un an.
Exactement. Fin août 2019, ils ont répliqué, en fait. C'est-à-dire, face à ces projets de loi, donc ils n'ont pas été votés, les projets de loi au Sénat. Vous imaginez bien que le Sénat américain ne les a pas votés parce qu'ils ont eu, ils ont été proposés, ils n'ont pas été votés, mais néanmoins, donc le Business Roundtable, qui est un groupe de 180 PDG d'entreprises américaines, donc a pris peur face à ces projets de loi. Ils ont publié un manifeste affirmant que la création de valeur actionnariale, ce dont on débat depuis plus d'une demi-heure, donc devrait être l'objectif évidemment primordial pour une entreprise, mais que maintenant l'entreprise, donc il réaffirme ça, mais que dorénavant, maintenant l'entreprise doit investir pour ses parties prenantes, les employés, les clients, traiter de manière éthique les fournisseurs et soutenir les communautés de leurs environnements opérationnels. Depuis 1972, le groupe a effectué c'est l'équivalent du MEDEF américain, hein, avait effectué un certain nombre de recommandations sur le management de l'entreprise.
On va peut-être faire réagir tout de même, ouais. Pascal Quiry, qu'est-ce que ça vous inspire?
Écoutez, soyons pragmatiques, dans un conseil d'administration aujourd'hui de 12-15 membres, vous avez 3 représentants du personnel. La question, est-ce qu'il faut monter à 5, 7? Bon, c'est évidemment sympathique comme proposition de dire...
Si ça marche aussi bien en Allemagne, est-ce que ça ne pourrait pas marcher en France?
Oui, mais justement, quand je regarde l'Allemagne, je suis désolé de vous contredire, ça ne marche pas aussi bien que ça en Allemagne. Regardez les 40 plus grandes entreprises françaises et regardez les 40 plus grandes entreprises allemandes. L'Allemagne, je vous rappelle, c'est 85 millions d'habitants, en France 67. Qui est les plus efficaces et les plus grands entre les 40 entreprises françaises et les 40 entreprises, plus grandes entreprises allemandes. Eh bien, contrairement à ce que souvent on pense, parce qu'on a un complexe d'infériorité par l'Allemagne, les 40 groupes français du CAC 40 sont plus efficaces, sont plus grands, embauchent plus de personnes.
Mais est-ce que c'est bien d'être grand? Est-ce que c'est pas aussi positif d'avoir un tissu de PME, comme c'est le cas de l'économie allemande?
Oui, mais on peut pas tout avoir, si vous voulez. Donc, Patricia Griffo le disait qu'on manquait un peu de recul et que ça serait bien de faire des études scientifiques sur le sujet le moment venu, lorsqu'on aura assez de chiffres. Je ne peux que concourir dans ce sens-là. Et je ne suis pas sûr qu'on montrera que le fait d'avoir la moitié d'administrateurs qui soient des représentants des salariés soit un facteur d'efficacité. J'en suis pas sûr. Parce que je regarde les faits, hein, je regarde sur 10, 20, 30, 40 ans, eh bien, les multinationales françaises sont quand même plus efficaces que les multinationales allemandes.
On arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais vous entendre en guise de conclusion sur la juste rémunération, selon vous, des actionnaires dans l'économie financiarisée, qui est la nôtre, Patricia Griffo.
Alors, c'est-à-dire,
quelle est, selon vous, la juste rémunération? Quelle serait la juste rémunération des actionnaires dans cette économie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il y a une rémunération qui est trop importante?
Moi, ça me fait penser en fait au débat sur la légitimité de la rémunération. La question, je la reformulerais plutôt comme ça. Est-ce que c'est légitime effectivement? Est-ce que le débat porte sur la légitimité des dividendes? Est-ce qu'ils sont à un niveau trop élevé ou pas? Tout comme la légitimité des hautes rémunérations, par exemple. C'est un débat qui est récurrent. Tous les ans, on l'entend à l'approche des assemblées générales. Un actionnaire, mon collègue tout à l'heure a dit le dividende finalement ne rémunère pas forcément l'actionnaire. Toute partie prenante dans l'entreprise est légitime en fait. Et donc la question c'est à quel niveau doit-on fixer sa rémunération et ce niveau-là est-il légitime? Il doit être négocié en fait. Donc c'est ma réponse elle est là en fait.
Pascal Quiry, peut-être sur la nécessité de réexpliquer le rôle aussi des dividendes dans l'économie comme on a essayé de le faire aujourd'hui.
Écoutez, il faut être pragmatique. Regardons les faits sur la longue période, puisqu'on est tous d'accord que ce qui compte, c'est quand même le moyen et long terme et pas le court terme. Quand vous regardez sur les 30 dernières années sur la Bourse de Paris, la performance pour l'actionnaire, donc la rémunération de l'actionnaire, vous avez un taux de 7% dividende réinvesti. C'est-à-dire qu'en moyenne, pendant 30 ans, l'actionnaire a gagné chaque année 7%. Là-dessus, avant impôt. Hein. Là-dessus, vous enlevez un impôt, dans le meilleur des cas, vous êtes dans un PEA, ça vous ramène à 6%. Là-dessus, vous enlevez l'inflation, vous êtes à 4%. Est-ce que vous trouvez que 4% de rémunération réelle, c'est trop ou pas?
J'imagine qu'il y a des disparités importantes.
Bien sûr.
C'est le problème des moyennes.
Voilà. Non, la disparité, c'est pas tellement un problème de disparité au sein de l'échantillon, mais c'est au cours du temps. Par exemple, cette année, si on s'arrête à aujourd'hui, on a une baisse moyenne d'environ 16%, si vous voulez. Et puis il y a d'autres années où ça va être plus 40%, mais il y aura aussi des années à moins 50%. Bon, donc quand je regarde avec le recul, j'ai pas l'impression que la rémunération obtenue par les actionnaires en France ait été excessive, si vous voulez. Parce que 7% par an avant impôt sur 30 ans, ça me paraît pas excessif par rapport à ce que vous avez dans l'immobilier, par exemple, ou dans d'autres placements alternatifs.
Le débat n'est pas fini, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur cette question et on continuera probablement à en discuter dans les prochains mois. Un grand merci Pascal Quiry et Patricia Griffo d'avoir accepté de participer à ce débat. Pascal Quiry, je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Yann Le Fur du Vernimen, un ouvrage consacré à la finance d'entreprise édité chaque année chez Dalloz. Je rappelle également votre ouvrage Patricia Griffo, La participation des salariés, écrit avec Antoine Rébériou et publié aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et tout de suite, c'est l'heure pour nous de retrouver notre partenaire d'Alternatives économiques. Aujourd'hui, c'est Aude Martin qui nous a rejoint autour de la table. Bonjour Aude.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
La France et l'Allemagne ont annoncé leur plan de relance économique face au Covid et vous avez décidé, Aude, de tenter de les comparer.
Oui, la semaine dernière, lors de la présentation de son plan de relance de 100 milliards d'euros, le Premier ministre français, Jean Castex, roulait en effet des mécaniques en déclarant que c'était, je cite, « en proportion de la richesse nationale, le plan le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens ». En fait, il est un tout petit peu tôt pour oser ce type de comparaison, puisqu'à ce jour, seule l'Allemagne a dévoilé ses intentions en matière de relance. L'Italie et l'Espagne, de leur côté, se sont contentés d'étendre pour l'instant des mesures de soutien. Si on se focalise donc pour l'instant sur nos voisins outre-Rhin, le Premier ministre a raison. 100 milliards d'euros, c'est un peu plus de 4% du PIB français en 2019, contre seulement 3,8% pour l'Allemagne et son plan à 130 milliards d'euros. Mais la différence, vous en conviendrez, n'est pas flagrante. Surtout, si l'on rapporte ces milliards au choc économique subi au premier semestre 2020, le ratio est à l'avantage de l'Allemagne, qui a été moins touchée par la pandémie.
Est-ce que les deux pays ont choisi de dépenser leur argent au même endroit ?
Alors, côté investissement, effectivement, les plans de relance français et allemands ciblent tous deux la transition écologique et le numérique. La différence, c'est que le plan France Relance, c'est son nom, se focalise sur l'offre, l'aide aux entreprises, alors que la priorité du gouvernement allemand est de soutenir la demande, c'est-à-dire d'encourager les ménages à consommer pour éviter de tomber dans une spirale déflationniste. Pour les familles allemandes, il est prévu par exemple une aide de 300 euros par enfant. Une autre mesure, plus médiatisée, est la baisse de TVA de 19 à 16% pour le taux standard et de 7 à 5% pour le taux réduit, qui restera en vigueur en Allemagne jusqu'à la fin de cette année.
Aurait-il fallu, Aude, que nous fassions la même chose en France, où ces taux resteront à 20 et 5,5%?
Alors une baisse de TVA fait toujours débat, car on ne peut pas savoir à l'avance si elle se répercutera intégralement sur les prix ou si elle servira à renflouer les marges des entreprises. Autre question, est-ce vraiment utile de soutenir la demande dans l'Hexagone alors que les ménages, du moins les plus aisés, ont tendance aujourd'hui à épargner? Pas moins de 85 milliards d'euros, nous dit la Banque de France. Et ce depuis le mois de mars. Enfin, encourager une reprise indifférenciée de la consommation n'est pas forcément compatible avec la marche vers une économie plus verte et plus sobre. Pour sauver la planète, il vaudrait peut-être mieux ne pas acheter ce nouveau SUV ou cette télé dernier cri. Et ce ne sont que quelques exemples. Pour éviter cet écueil, certains proposent de cibler l'aide sur les secteurs les plus touchés par la pandémie. Sur le site d'Alternatives économiques, l'économiste Mathieu Plane envisage par exemple une baisse de TVA temporaire sur l'hôtellerie-restauration ou le secteur de la culture. Que ce soit par ce biais-là ou par un autre, comme un éventuel remodelage du barème de l'impôt sur le revenu, une chose est certaine. Les Français modestes auraient bien besoin, comme les Allemands, d'une bouffée d'air pour affronter sereinement les prochains mois.
L'autre grande différence entre ces deux plans, Aude, c'est le timing.
Côté allemand, en effet, les deux tiers des dépenses programmées dans le plan de stimulation qui a été présenté au mois de juin devraient intervenir en 2020, soit environ 90 milliards d'euros. C'est ce que note l'économiste Véronique Riche-Flores dans une note parue cette semaine. Côté français, en revanche, il faudra attendre début 2021. Quelques mois précieux vont donc là être perdus. Alors il est bien sûr trop tôt pour dire quel plan sera le plus efficace, puisque cela dépendra de la mise en œuvre dans chaque pays. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques mois.
Merci beaucoup Aude Martin. On vous retrouve effectivement dans un mois pour une nouvelle chronique d'Alternative, notre partenaire d'Alternative économique. Et tout de suite, c'est l'heure pour nous de retrouver votre rendez-vous. Racontez-moi l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Chaque vendredi, l'économie part à la rencontre de la fiction. La semaine dernière, nous avons suivi Harry Potter à l'école du capitalisme. Aujourd'hui, nous rangeons nos baguettes et nos grimoires pour suivre les pas de Jacques Demy à Nantes, au cœur de l'été 1955. Son film Chanté, une chambre en ville, s'ouvre sur un face-à-face en pleine rue entre ouvriers et CRS.
Dispersez-vous, rentrez chez vous. Nous ne voulons pas d'incident.
Laissez-nous passer, nous ne partirons pas.
Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici pour défendre nos droits.
Dispersez-vous, rentrez chez vous. Retirez-vous dans l'ordre et le calme.
Nous sommes ici pour défendre nos droits, pour nos femmes et pour nos enfants et les enfants de nos enfants.
Bon sang, bonsoir, ces femmes et ces moutards nous cassent les oreilles.
Police, milice, ricaille, racaille.
Dispersez-vous, retirez-vous, rentrez chez vous.
Police, milice, ricaille, racaille.
Bonjour Jean-Marc Lalanne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes critique de cinéma et rédacteur en chef des Inrocks. Une chambre en ville, alors c'est l'histoire de la passion qui naît entre un ouvrier métallurgiste, François, incarné par Richard Berry, et Edith, alias Dominique Sanda, une jeune femme volcanique sur fond de conflit social. On va y revenir. Mais d'abord, dites-nous, Jean-Marc Lalanne, quelle place occupe ce film dans la filmographie de Jacques Demy, un film qui est sorti en 1982?
Oui, donc c'est plutôt, c'est son avant-avant-dernier film, donc c'est plutôt un film tardif de Jacques Demy, et en même temps c'est le premier scénario qu'il a écrit de long métrage dans les années 50, alors qu'il n'est pas encore cinéaste. Déjà, il voulait raconter ce film qui est situé dans le Nantes des années 50, lors de manifestations ouvrières qui ont réellement eu lieu. Donc dans le temps où ces manifestations avaient réellement lieu, il a voulu écrire dessus, tout en y mêlant les souvenirs d'enfant qu'il avait de son père, qui était garagiste, ouvrier, et il essayait de raconter à la fois le monde d'où venait son père et de son enfance des années 30, dans la France des années 50, et de ses événements réels, et finalement, il les a reconstitués que 30 ans plus tard, dans la France des années 80, ce qui donne une vraie complexité temporelle au film.
C'est l'un de ses films les plus politiques, la lutte entre les classes sociales apparaît au premier plan.
Oui, c'est celui qui est de manière la plus littérale, même si la question de la lutte des classes est vraiment très présente dans le cinéma de Jacques Demy. Je dirais que un de ses sujets, c'est comment la bourgeoisie anéantit toute pulsion de vie. C'est vraiment au centre des Parapluies de Cherbourg, quand même, qui est l'histoire d'un mariage forcé et d'une histoire d'amour sacrifiée au profit d'un calcul social. C'est déjà dans Lola, son premier long métrage, mais là, effectivement, c'est le film où ça prend la forme, le tour le plus violent, avec cette ouverture et cette clôture du film sur des affrontements entre les forces de l'ordre, les violences policières et des manifestations d'ouvriers. Et la dimension tragique du film, puisque ça se termine par une mort, la mort survient lors d'un affrontement entre les ouvriers et la police.
Écoutez-moi, les négociations n'ont pas abouti. Ceux de Saint-Nazaire vont se joindre à nous. La marche sur la préfecture aura lieu jeudi.
Est-ce que ça va durer longtemps ?
On en a encore au moins pour 6 mois.
Il faut tenir le coup.
On a déjà marché, on n'est pas plus avancé.
Il ne faut pas céder.
Silence, écoutez-moi, il y a plus grave. La direction a décidé ce matin de licencier les derniers embauchés.
C'est dégueulasse.
Les négociations reprendront dès demain. Il n'est pas question d'accepter le licenciement. Sont mis à pied les camarades dont les noms suivent. Jousse, Fournier, Le Glohanec, Guilbeault, Gicquiot, Delacroix.
La réunion des ouvriers métallurgistes qui voit les négociations échouer, vous l'avez dit, Jean-Marc Lalanne, Jacques Demy s'appuie ici sur des faits réels, les grands mouvements sociaux de l'été 1955 à Saint-Nazaire et à Nantes. Quel était le but de ces mouvements de grève et qu'est-ce que Jacques Demy a voulu mettre en avant sur le plan effectivement de la violence de ces combats de rue qui ont été particulièrement frappants?
Ah, je pense qu'il y a dans tout son cinéma cette idée que la bourgeoisie est une des formes les plus fortes de l'oppression. Et ce qu'il montre dans le film, c'est que les CRS en sont le bras armé. Mais au-delà, disons, des CRS, il y a le personnage incarné par Michel Piccoli, qui est un marchand de télé, ce qui dans les années 50 indique une forme de futur technologique de la France. Et ça va être, disons, l'opium du peuple, pour utiliser un mot célèbre. Il dénonce cette anesthésie générale de tout ce qu'il y a de vivant par le mode de vie bourgeois, qui est incarné dans le film au-delà même des forces de l'ordre par le personnage de Michel Piccoli. Alors que face à ce personnage-là, il y a un autre personnage qui est un personnage d'aristocrate déclassé, interprété par Daniel Darieux, et qui pour le coup, même si c'est un personnage dont le film pointe le ridicule, la coquetterie, c'est malgré tout un personnage qui est observé avec beaucoup plus de tendresse, parce que ce mouvement descendant a beaucoup plus la sympathie de Jacques Demy, cette vieille aristocratie, vieille France déclassée, que la violence marchande de la bourgeoisie d'affaires et commerçante.
Sur les mouvements sociaux de Saint-Nazaire et de Nantes, selon Yves Rochecongard, qui est spécialiste de l'industrie nantaise, les ouvriers voulaient rattraper les salaires de la métallurgie parisienne, et il a fallu plusieurs semaines de négociations pour que les patrons acceptent une augmentation de salaire de 25%. Et puis il faut aussi se souvenir que la troisième semaine de congés payés va être instituée quelques semaines plus tard, quelques semaines après ces mouvements sociaux de l'été 55, avec la signature des accords Renault. Mais vous parliez effectivement, Jean-Marc Lalanne, de ce personnage de Madame Langlois, la logeuse de François, donc qui est jouée par Daniel Darieux. Je vous propose de l'écouter.
Ça vous épate, la bourgeoisie qui, comme moi, s'envoie en l'air. Moi, Guilbeault, vous savez, j'emmerde les bourgeois. je ne leur appartiens pas. Je vais même vous faire un aveu. Je vous aime mieux que tous les bourgeois. Vous et les vôtres, vous vous battez pour quelque chose. Vous, vous vous battez pour survivre comme moi. Les bourgeois, eux, pourrissent avec leurs biens. Ils croupissent dans le confort de leurs habitudes. Mais moi, je vous jure qu'ils ne m'auront pas.
Voilà le personnage de Madame Langlois qui connaît donc un certain renversement par rapport au tout début du film, Jean-Marc Lalanne.
Qu'est-ce que vous voulez dire
C'est-à-dire que c'est un personnage qui va finalement être plus sympathique que ce qu'on pouvait imaginer, là où au tout début on voit une bourgeoise qui observe à la fenêtre les affrontements dans la rue.
Cassante, effectivement, et qui va être extrêmement attachant parce qu'elle est extrêmement solitaire, parce que les classes s'opposent. La classe populaire est filmée de manière extrêmement héroïsée dans le film. La classe bourgeoise, qui a son mode de solidarité particulier aussi, hein, qui est la connivence bourgeoise et la force d'oppression, c'est aussi une classe. Et d'une certaine façon, Daniel Darieux, c'est le personnage le plus seul du film. Et d'une certaine façon, c'est aussi le plus bouleversant. Et plus le film avance, et plus le spectateur s'attache à son désarroi. Et il y a une forme de tendresse qui émane d'elle. Mais profondément, pour moi, le sujet du film, c'est la disparition du peuple. C'est-à-dire que lorsque le film intervient dans les années 80, il y a quelque chose qui, dans ce concept-là, l'idée de peuple, de classe populaire, est déjà en train de se désagréger. Et la France qui filme n'existe plus. Et il le fait dans une forme qui, elle-même, a quelque chose d'anachronique, c'est-à-dire une sorte de grand mélodrame populaire chanté. Et c'est donc une espèce de grand film populaire pour un public qui n'existe plus vraiment. Et le film paraît totalement hors sol dans la France des années 80 et qui décrit une sorte de mythologie ouvrière, d'érotisme prolétarien qui, déjà dans les années 80, semble appartenir à une perception sociale de la France du passé, et c'est ce qui est assez bouleversant dans le film. C'est un film qui montre quelque chose qui est déjà en train de disparaître, dans une forme qui elle-même est extrêmement résistante et ne ressemble à rien à ce qui est en train de devenir le cinéma français des années 80.
Eh bien, un grand merci Jean-Marc Lalanne de nous avoir emmené dans l'univers de Jacques Demy, Une chambre en ville de Jacques Demy. Un grand merci à vous.
Road again, just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. Now I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again.
On se quitte avec le duo de First Aid Kit et leur nouveau titre, The Road Again. Lundi, le capitalisme est-il en train de se transformer? On parlera de monopole et de concurrence avec nos trois invités. Puis, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est notre série qui démarrera à partir de mardi. Comment les autres pays européens font face à la crise? On prendra la direction du Royaume-Uni, de la Pologne et de l'Espagne. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.